L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, pour cette émission, toujours en Gascogne, j'avais envie de vous parler d'un sujet pas si anodin que ça. Les fleurs que l'on consomme en France viennent à 90% de pays étrangers. Ça va jusqu'au Kenya avec des roses qui arrivent tout au long de l'année en avion. Alors c'est pas bon pour la planète, mais c'est aussi très mauvais pour les personnes qui les cultivent, pour les personnes également qui les vendent. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille de cette émission aujourd'hui, c'est ce combat d'une maman qui a perdu sa fille à 11 ans. Elle s'était battue depuis l'âge de 4 ans contre un cancer et il a été reconnu ce cancer, qu'il a été contracté par l'enfant quand elle était dans le ventre de sa mère qui, elle, était avec des fleurs toute la journée. Ces fleurs qui viennent de pays étrangers dans lesquels on retrouve des substances qui ne sont pas autorisées. Donc ils sont passés de la peau à ce petit bébé qui aujourd'hui est mort. Le cancer du lymphome est aussi un cancer qu'on retrouve beaucoup chez les fleuristes. C'est à la fois une émission d'écologie et une émission humanitaire. Quand vous achetez vos fleurs, faites attention. Allez vers un label qui s'appelle le collectif de la fleur française, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et ce collectif, on le retrouve chez des fleuristes, on le retrouve chez des producteurs, garantit des fleurs déjà fabriquées en France, donc avec des produits parfois qui peuvent être, c'est pas forcément bio, il existe des producteurs de fleurs bio, et c'est ce que je vous présente propose de voir aujourd'hui. Il existe, mais déjà vous avez la certitude que tout ça est fait en France, qu'il n'y a pas une main d'œuvre sous-payée, mal exploitée, soumise à des produits toxiques et des fleuristes derrière qui risquent leur vie, tout simplement pour la chose la plus poétique qui soit et la plus belle qui est d'offrir des fleurs. Mais il existe des solutions, donc ce collectif de la fleur française, et pour en parler, je vous propose de découvrir le jardin d'Orphée. Bonjour Orphée.
Bonjour.
Alors, on est ici dans ton jardin. Alors là, ici, pour le coup, des pesticides, il n'y a même pas de champs aux alentours. On est au milieu des montagnes, des forêts et des prairies. Ici, vraiment, tu es dans un endroit hyper préservé.
Oui, bah ici c'est même très sauvage en fait. Je suis à la lisière d'une forêt. Il y a des fougères et des ronces, pas mal, et de la prairie. Et j'ai pas vraiment choisi cet endroit. J'y suis arrivée parce que ça s'est présenté comme ça. Oui, du coup, chez moi, il n'y a aucun produit qui franchit qui arrive sur le lieu. Et il y a quand même pas mal de fleurs.
Oui, il y en a naturellement. En venant ici, j'ai vu des fleurs sauvages par milliers au bord des routes. Pourquoi tu as fait ce choix, toi, tu viens du monde agricole et tu as choisi de faire la fleur? Comment ça s'est passé? C'est quoi ton parcours?
Ouais, donc moi j'ai grandi sur une ferme en bio et en biodynamie aussi, donc mon enfance c'était complètement ça. Mes parents étaient maraîchers dans ma plus petite enfance, on va dire, et après ils ont fait de l'élevage aussi. Et moi j'avais une approche en fait très poétique de l'agriculture dans mon fort intérieur. Et quand j'y suis venue après professionnellement, ça m'a tenu à cœur de pouvoir continuer à le vivre et de le proposer aussi. Oui, ma mère a cultivé un jardin de fleurs devant la maison, donc il y avait beaucoup de fleurs dans mon environnement d'enfant. Et c'est vrai que je me souviens d'une fois où j'avais vu dans un bouquet acheté chez un fleuriste le petit produit additif qui disait ne pas laisser à la portée des enfants ou quelque chose comme ça. Et en fait, je connaissais pas du tout cet univers-là, ça m'a vraiment choquée sur le moment. Et je me suis dit que c'était vraiment important de pouvoir proposer une alternative à ça, quitte à sortir de ce que propose la fleuristerie classique et même justement pour en sortir quoi. Donc au départ je l'ai fait un peu par on va dire presque dans l'idée d'une utopie ou de quelque chose de l'ordre du rêve, et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était possible que ça devienne la réalité en vrai, parce que je l'ai beaucoup fait dans l'espoir que peut-être ça donnerait quelque chose, mais sans aucune attente. Puis finalement il y a une clientèle qui s'est développée petit à petit. Moi je me suis installée en fait en maraîchage avec une petite partie fleurs en parallèle, mais c'était peut-être, on va dire, 10% de ma production dans mon temps de travail. Et puis, petit à petit, ça m'a toujours beaucoup plu de le faire. C'était saisonné, donc il y avait une partie de l'année où j'en faisais pas. Et puis, ça passait toujours vraiment après le reste. Donc, il y avait ce qu'il y avait. Et puis, il y a des gens qui apprécient. Il y a des personnes qui préfèrent ça et qui n'aiment pas les fleurs des fleuristes. Il y a des personnes pas mal de clients qui m'ont souvent dit, ben moi, j'achète jamais de fleurs, enfin, sauf chez vous, quoi.
C'est pas, en effet, on va pas retrouver de la... Alors, de la tulipe, tu en as peut-être, mais on ne retrouve pas de roses, on ne retrouve pas de fleurs des grands classiques, on retrouve plutôt des fleurs qui vont être adaptées à ton terroir. Finalement, au lieu d'essayer de faire pousser tout et n'importe quoi chez toi, tu mets des choses qui soient adaptées et tu les proposes localement, sur les marchés, il faut le rappeler.
Ouais, exactement. Ben, en fait, je me suis dit, moi j'ai envie de fleurs qui poussent chez nous, et qu'ils ne soient pas boostés, et que du coup, quand je les récolte et qu'elles arrivent dans un vase, et ben, elles vont être encore en pleine forme et elles vont tenir la semaine. Et par contre, j'ai envie de pouvoir vraiment me faire plaisir artistiquement, donc ça sort des sentiers battus. Et moi, j'aime la plante dans tous ses états, j'aime la forme du végétal, la beauté du végétal, que ce soit du sauvage ou du cultivé, et je trouve qu'on valorise assez peu toutes ces belles choses qui sont vraiment à portée de main et qui peuvent être mises en valeur pour pas grand-chose. J'ai eu à faire tomber quand même un peu des barrières dans ma tête pour pouvoir finalement vendre, par exemple, des marguerites qui poussent sur le talus et qu'en général on débroussaille. Mais après, en fait, je me suis rendu compte qu'en temps de travail, ça revenait au même et que bah, c'est toujours la même chose, c'est le service proposé, quoi. Et que, en fait, bah, cette sensibilité-là que moi j'ai pour le végétal et que j'apprécie en faisant un bouquet avec des marguerites, de la fougère, et on va avoir aussi peut-être des rudbeckia ou d'autres fleurs que j'ai cultivées, bah, ce charme-là, il plaît aussi à d'autres personnes et que finalement, y a une clientèle pour ça aussi. Et que oui, ils pourraient aller se faire une rando et se cueillir leur bouquet. Mais bon, là, s'ils veulent aller manger à midi chez leurs copains et amener un petit cadeau, bah, ils peuvent l'avoir tout de suite.
Et tu fais des fleurs séchées aussi, j'ai vu sur le marché.
Ouais, donc il y a les fleurs que je cultive et les fleurs que je cultive pour sécher, pour l'hiver, pour avoir des fleurs l'hiver quand il n'y a plus de fleurs. Parce qu'en réalité, la réalité, c'est que moi, j'ai une saison sans fleurs fraîches qui commence mi-novembre et qui va jusque mi-mars.
Et ça fait des super bouquets pour tout l'hiver, justement. Ça évite les vases vides.
Voilà, bah après, moi j'ai l'impression qu'il y a des clients pour les fleurs séchées et des clients pour les fleurs fraîches. Il y en a qui attendent impatiemment les premiers bouquets de fleurs séchées et d'autres qui me disent, en novembre, me disent bon bah ciao ciao, on se revoit au printemps parce que c'est pas mon truc quoi.
On va parler de ce collectif de la fleur française. Tu aurais pu ne pas en faire partie. Il y a le lien sur ton site internet qui s'appelle Les Fleurs d'Orphée, d'ailleurs, si les gens veulent voir un petit peu ce que tu fais. Il y a ce lien vers, c'est comme ça que je l'ai découvert, vers le collectif de la fleur française. Pourquoi, alors que toi, finalement, tu es dans ton petit coin de nature, que tu vas au marché du coin, que tu n'as pas besoin de... Je ne pense pas que sur ton stand, tu le mettes en avant. Pourquoi tu t'es adossé comme ça à un collectif?
Y avait une question de visibilité quand même. Du coup, moi, j'avais commencé bien avant le collectif à proposer des fleurs. Mais quand j'ai vu qu'il y avait ça qui commençait à exister, puis des collègues m'en ont parlé, déjà, j'ai trouvé ça super que ça existe. Moi, j'ai toujours cultivé en bio et ça soulève des questions intéressantes. Mais au-delà de ça, déjà que les fleurs soient locales, c'est déjà un grand pas, je trouve. Donc j'adhère au collectif pour soutenir cette dynamique. Et moi, ce que j'en retire, c'est une visibilité sur le territoire. Parce que j'ai quelques clients, des fois, qui viennent plutôt par une démarche intellectuelle, qui vont se dire « moi, je veux de la fleur locale ». Ils vont trouver le collectif, aller voir sur le site, et là, il y a une carte et ils me trouvent comme ça.
Par exemple, une clientèle de mariage, des gens qui recherchent pour leur mariage des bouquets un peu plus champêtres, ce genre de choses, ils vont te trouver grâce à ça.
Ça pourrait. Et puis, on n'avait pas parlé j'étais pas allée au bout sur la question de quelles fleurs je cultive.
Ah oui.
Ouais. Et en fait, je cultive des fleurs qui poussent bien chez nous. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est comme dans nos jardins ». Donc, en fait, c'est les fleurs de nos jardins. Sauf que j'essaye de faire plusieurs séries pour que ça s'étale un peu sur la saison. C'est d'avoir la diversité. Donc, il y a toute une gamme de fleurs qui sont des plantes vivaces, en fait. Donc là, on va avoir des achillées... même des arbustes aussi, par exemple le végélia ou la rose, la pivoine, toutes sortes de choses, des chardons, etc., qui vont arriver souvent un peu plus tôt au printemps, qui vont me permettre de faire la transition, parce que là, ici, j'ai un climat qui est très froid, humide, donc le démarrage au printemps, il est très très lent. C'est très mauvais pour faire de la fleuristerie, en fait, dans ce climat-là. Mais donc, les vivaces m'aident un petit peu, et après, tout l'été, il y a, voilà, j'ai dit les rudbeckia tout à l'heure, mais il y a même des tournesols, du gypsophile en vivace aussi, j'ai des bleuets, moi, je mets des bleuets dans les bouquets, par exemple, ça tient pas très bien, mais si on sait le cueillir au bon moment, ça tient. Le cosmos, c'est pareil.
Ouais. Si on sait le cueillir au bon moment, c'est-à-dire au moment où la fleur commence à s'ouvrir.
Voilà, donc en fait les fleurs elles ont un temps de floraison, qui va durer peut-être, ça va dépendre de la chaleur et de la durée du jour, mais et si on sait observer la floraison du cœur, ben on va l'accueillir au bon moment. Si on l'accueille alors qu'elle est à son avant-dernier jour de floraison, forcément elle va faner rapidement chez les clients. Si on l'accueille au moment où elle vient de s'ouvrir, ben on sait que ça peut durer la semaine. Donc même des fleurs fragiles en fait peuvent très bien tenir une semaine dans un bouquet.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur.
Nous sommes de retour avec Orphée, Orphée dans son jardin de fleurs, Orphée qui produit des fleurs. Il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu écologique puisqu'on fait venir nos fleurs de l'autre bout de la planète. Il y a un enjeu sanitaire à la fois pour ceux qui les cultivent et pour les personnes qui les manipulent, les fleuristes. Et même vous, on va dire, quand vous amenez un bouquet, vous amenez avec, quand vous avez des roses qui viennent du Kenya, vous amenez avec des produits toxiques dans votre maison qui sont souvent interdits en France et en Europe. Orphée, cultiver de la fleur bio, ça consiste en quoi ? C'est quoi la différence ? Quel est l'avantage de cultiver en bio ?
Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'affiche le logo AB sur mon stand. Et c'est vrai qu'on me la pose souvent, de dire, vu que ça ne se mange pas, à quoi ça sert de faire en bio, quoi ? Et donc, quand on travaille en conventionnel, il y a quand même des pesticides et des produits qui vont aller dans le sol. Et donc ça va quand même polluer la terre en partie, même si tous les produits ne sont pas forcément hyper polluants, mais ça a quand même un impact. Et du coup, en bio, on n'utilise pas ces produits-là.
Enfin, il y a toi, il y a ta santé à toi, tu as grandi dans le bio, donc tu as des techniques pour tes fleurs, pour justement qu'elles soient belles, sans les engrais, sans tout ce qu'amènent les autres.
Mais oui, ça passe par une connaissance des stades de récolte qu'ont bien sûr aussi les producteurs, floriculteurs et floricultrices en conventionnel. Mais donc c'est ça, savoir récolter au bon stade pour que la fleur se tienne. Parce qu'il y a certaines fleurs qu'il va falloir récolter plus tard pour que la tige soit suffisamment rigide et d'autres qu'il faudra récolter plus tôt pour qu'elles ne soient pas encore trop fleuries et qu'elles tiennent longtemps. Donc ça, c'est à connaître chaque plante et comment elle se développe et son fonctionnement. Et après, il y a aussi des moments dans la journée, de récolter le matin par exemple, de mettre dans l'eau rapidement, qu'elle soit à l'ombre tout de suite. Souvent, les fleurs, ça se met en chambre froide aussi pour garder plus longtemps. Mais donc, moi, je ne fais pas ça. Comme j'ai 2 marchés par semaine, je fais mes récoltes la veille pour le lendemain à chaque fois. C'est une connaissance des variétés. Et moi, comme j'utilise, j'aime beaucoup intégrer les plantes sauvages dans mes bouquets, ben, je suis sans cesse en train de faire des tests de tenue de plantes. Donc, par exemple, je me suis amusée à vouloir réussir à mettre des pavots et des coquelicots dans mes bouquets. On sait très bien que ça ne tient pas. Et donc, j'ai fini par trouver une technique. C'est que j'ai une variété de pavots déjà qui tient. Donc c'est des pavots, le pavot de Reconvilliers qui ressemble un peu au coquelicot, mais en plus gros. Et donc il est un peu plus stable, on va dire. Et donc je le récolte en bourgeon, mais j'ai observé le moment où le bourgeon commence à s'approcher de son ouverture. Et je l'intègre dans les bouquets en bourgeon. Et je sais que dans la semaine, il va s'ouvrir. On ne sait pas à quel moment, mais ça fait une surprise à un moment donné.
Ici, le désherbage, évidemment, il est manuel. On est vraiment sur... On a plusieurs terrasses. Tu désherbes tout à la main ou tu es quand même un peu mécanisé?
Je suis mécanisée pour les travaux de sol, pour préparer la terre avant plantation, et après c'est tout à la main. Et c'est vrai que bio n'implique pas forcément, à si petite échelle comme moi, ça pourrait être plus grand et plus mécanisé, mais moi c'est vraiment très, très manuel, on va dire très rustique.
Et comment tu te bats contre les insectes, contre les limaces et tout ça? Comment tu fais? Parce que la fleur c'est souvent ce qu'il y a de plus fragile face à ça. Comment ça se passe?
Oui, bah alors les limaces, clairement, c'est un problème, mais c'est le même que pour les légumes. Et là, ce qui marche, c'est de tenir l'herbe courte et puis d'avoir un jardin qui a un bon équilibre. Chez moi, comme c'est un endroit très humide, je ne peux pas utiliser tellement de paillage pour cette raison-là. Mais après, une fois que la chaleur est arrivée, il n'y a plus de problème de limaces. Et par rapport aux insectes, moi, je suis vraiment dans une vision intégrative. Où je me dis que si l'insecte est là, il vient réguler quelque chose et du coup, je peux avoir des fois des dégâts. Mais je plante en quantité ou même un tiers en moins, ça peut aller. Et donc, il y a des années où il y a plus de... Alors sur les fleurs, c'est souvent les chenilles qui nous embêtent. Voilà, comme je vous disais, d'entrée de jeu, j'ai vraiment une approche très poétique. Et du coup, quand j'avais ce problème de chenilles, c'était le moment où je lisais Le Petit Prince à ma fille. Et donc, à un moment, la rose explique que... Bon, bah, si elle veut avoir des papillons, il faut bien qu'elle supporte quelques chenilles. Et du coup, bah, ça allait avec les chenilles. Je l'ai bien vécu à partir de ce moment-là.
Et puis, toi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu n'as pas à fournir des clients fleuristes où on va te demander telle ou telle fleur. Tu composes chaque veille de marché tes bouquets. Donc forcément, tu fais avec ce que tu trouves.
Oui, donc complètement, j'ai une sensibilité artistique et créative qui était toujours présente et c'est entre autres pour ça que j'ai fait des fleurs pour pouvoir faire de l'agriculture sans devoir renoncer à cette part-là. Et en fait, c'est même plus parce que je ne compose pas la veille, comme tu le suggères, mais en fait je compose sur place au marché mes bouquets, parce que j'aime bien le faire sur le moment et qui plus est, si possible, à la demande du client. Donc voilà, il y a vraiment une partie créative et il y a aussi beaucoup de liberté là-dedans. C'est-à-dire que si mes calendulas, ils ont la tige courte, ils ont la tige courte et ça fait des bouquets avec la tige plus courte. Et c'est pas grave, il n'y a pas un standard de quelque chose qui va me dire non, on ne vous les prend pas, ils sont trop courts. Moi, j'amène ce que j'ai et en fait, je fais avec ce qu'il y a. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça, il y a toujours des amateurs. Et il y en a qui veulent des fleurs plus classiques et ils trouvent plein de fleuristes.
Ouais, par contre, les gens qui viennent chez toi, je suppose, sont ravis parce que. Du coup, la grande différence, c'est qu'on trouve chez toi ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Ta clientèle, c'est qu'il y a une typologie de clients pour toi?
Eh ben non. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est que j'ai quand même plus de femmes que d'hommes, mais pas que. Et il y a aussi des hommes et des hommes qui achètent des fleurs pour offrir, mais pas que, aussi pour eux-mêmes. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, de plus en plus de jeunes qui ont entre 20 et 30, même des étudiants, qui s'achètent un petit bouquet pour la semaine. Et j'aime bien que ça reste un produit très abordable. Donc en fait, comme je compose sur place, je peux faire des tout petits bouquets et ça ne me gêne pas. Donc je propose un bouquet composé à partir de 5 euros. Et donc il y a bien sûr des personnes qui veulent un bon gros bouquet à 20, 30 euros, mais il y en a aussi qui ont un petit budget et qui voudraient juste avoir quelques fleurs sur leur table et donc c'est possible aussi.
Et alors, puisqu'on commençait à parler d'argent, c'est rentable? Comment ça se passe? C'est quoi les astuces pour être à peu près rentable?
Et bah là, c'est un peu la question où ça va être difficile de répondre en 2 minutes. À moi, pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore.
Tu as 10 minutes si tu
Ouais. Non, mais je pourrais pas y répondre en 10 minutes. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas encore complètement rentable parce que je me suis réinstallée récemment. Donc, ce que je disais, j'étais sur du maraîchage et je me suis réinstallée uniquement en fleurs. Ça fait maintenant 3 ans, mais sur un lieu qui était complètement nu, où du coup il y a eu du terrassement. Là, je suis partie de vraiment de zéro au niveau de la terre, et donc avec une maison en chantier. Donc il y a eu plein de priorités en même temps. Mais à terme, ça pourrait le devenir. Disons que là, j'ai encore une limite sur la vente, c'est-à-dire que la clientèle est longue à développer quand même. Sur Bagnères, où ça fait 10 ans, 15, presque 15 ans que je fais le marché, j'ai vraiment ma clientèle et j'y vais, et je sais que je vends et c'est satisfaisant. Là, sur Tarbes, où je fais mon deuxième marché, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est là que ça pêche un peu actuellement.
Parce que là, tu viens d'arriver sur ce marché-là.
Tarbes, ça fait quand même déjà 1 an et demi, mais c'est très long à décoller et je suis même en train de me demander si je vais pas en changer ou tester autre chose parce qu'il faut toucher des gens qui ont cette ouverture-là.
Bagnères est une ville un peu plus poétique, justement.
Oui, et puis en fait, la fleur, c'est un produit très particulier. Donc, en fait, il y a deux clientes pour les fleurs. C'est soit le client ou la cliente qui flâne et qui a du temps et qui a envie de se faire plaisir. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que la personne se sente bien, qu'il n'y ait pas un parapluie à porter, plus un sac de course et que ce soit trop compliqué logistiquement, qu'il fasse pas trop chaud non plus, les fleurs pourraient faner, qu'on n'ait pas prévu d'aller boire un coup parce que le bouquet tiendrait pas, qu'on part pas en week-end derrière et qu'on part en voiture. Qu'on n'est pas en camping-car ni en sous-tente, donc le touriste non plus. Donc il y a quand même pas mal de paramètres. Donc ça, c'est le premier client. Le deuxième, c'est la personne qui a prévu d'aller quelque part et qui pense à offrir des fleurs et qui cherche un fleuriste. Dans le premier des cas, il y a plein de facteurs qui doivent être bien alignés. Et dans le deuxième cas, il faut que le fleuriste ou la fleuriste en question soit bien intégré dans le cerveau des gens pour qu'ils sachent le jour où ils font un cadeau, tiens, il y a un tel à tel endroit. Donc c'est une clientèle qui est longue à fidéliser.
Et là, par contre, ouvrir une boutique, ça, c'est pas pour toi, c'est hors de question.
Et bah, c'est pas hors de question, mais ça demanderait de construire un partenariat parce que là, actuellement, toute seule, je peux pas et cultiver et tenir une boutique avec des tentes permanentes, etc.
C'est du temps, la fleur. Alors, toi qui as fait la différence entre le maraîchage et la fleur, ça demande plus, moins de temps, autant.
C'est pas réparti du tout pareil. En fait, en soi, la culture, ça se ressemble, mais au final. Les temps de culture sont beaucoup plus longs pour la fleur, mais par contre on en fait moins.
Pourquoi?
Bah, parce qu'une plante, elle pousse, elle se développe, elle fait une petite rosette, ensuite elle développe ses feuilles. Et puis quand elle arrive au bout du cycle de feuilles, elle va faire sa tige pour fleurir. Donc en fait, ça c'est presque encore la moitié du temps en plus par rapport à un légume qu'on va manger. En général, une salade, on la mange avec ses premières feuilles, quoi. Bon, un poireau, c'est très très long, ça dépend des légumes aussi. Mais globalement, les fleurs, c'est un peu plus long. Mais bon, ça pousse tout seul, hein. Mais une fois que c'est fleuri, on peut récolter plus longtemps sur le même pied. Et par contre, il y a beaucoup plus de temps dans la composition, la récolte, par rapport aux légumes.
Oui, on va récolter tout d'un coup en général, sauf les tomates,
Oui,
des choses
voilà.
comme ça, mais en général on récolte tout d'un coup,
C'est
alors
ça.
que la fleur, ça va être par petits bouts.
C'est ça, c'est plus délicat, il y a plus de relations clients. Quand par exemple je fais un mariage, bah oui, il y a un premier rendez-vous, après je vais voir sur place, ensuite je fais un devis. Enfin, c'est beaucoup plus. Il y a plus de temps accordé aux besoins de la personne que pour des légumes où, bon, voilà, on a des poireaux et ça, et puis on vend quand ils veulent, quoi.
C'est un autre métier.
C'est ça. C'est un autre métier, mais avec le végétal en commun.
Alors que quand les gens te demandent de leur composer un bouquet, ils ont quand même des idées. Qu'est-ce qui plaît en ce moment si des gens veulent se lancer un peu dans la floriculture aussi? Qu'est-ce qui attire? C'est quoi un peu l'envie?
Eh ben, j'observe plusieurs règles. Souvent, les gens ont envie de la chose que j'ai le moins, logique.
C'est-à-dire?
Bah, si j'ai, par exemple, sur mon stand beaucoup de roses et de jaunes et que j'ai un peu de bleu, bah, ils voudront du bleu. Voilà. Il y a ça. Et après, bah, il y a aussi des goûts très personnels où certaines personnes vont me dire d'entrée de jeu, alors tout ce que vous voulez, mais pas du jaune. OK. Il va y en avoir qui voudront un peu de tout, ça leur est égal. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vient toucher à la notion de beau. Et j'ai beaucoup souvent des clients qui me disent, bah, comme vous voulez, faites-moi un truc joli. Alors, je leur réponds, bah, moi, je fais que des trucs jolis, évidemment. Mais c'est une question de goût. Et il y a quand même pas mal de personnes qui pensent n'avoir pas de goût ou qui sont pas faites pour savoir dire la beauté. Alors que c'est en fait très personnel. Et donc, souvent, ils me disent, bah, allez-y, c'est comme vous voulez, j'y connais rien. Donc je commence à composer et là ils vont m'interrompre en me disant excusez-moi, plutôt pas ça s'il vous plaît. Ah oui, donc vous avez comme un avis. D'après moi, c'est vraiment uniquement subjectif.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé rapidement. Il y a toute une partie, on va dire, qui a été où la terre a été retournée pour mettre les fleurs annuelles que tu vas semer. Il y a une partie avec des fleurs qui sont avec des fleurs vivaces sur lesquelles tu vas, comme les rosiers ou les végélias, sur lesquelles tu vas prélever. Donc ça, c'est la difficulté sur cela, c'est, j'imagine, le désherbage. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé. Ce sont tu as toute une série de petites serres. Tu fais pousser de la fleur en serre?
Donc un petit peu, là ça représente on va dire peut-être 20% à peu près de mes fleurs. La serre elle a deux fonctions, c'est augmenter la chaleur et limiter l'humidité, enfin réguler l'humidité. Il y a certaines plantes qui supportent pas de passer un hiver les pieds dans l'eau, chez moi c'est quand même très mouillé, qui vont péricliter. Par exemple, c'est pas une fleur, mais je cultive de la verveine citronnée parce que je fais des tisanes aussi. Bah, c'est l'exemple type, si elle est en extérieur chez moi, elle va péricliter parce qu'elle ne supporte pas d'avoir les racines trempées tout l'hiver avec du froid par-dessus. Alors que sous serre, c'est des serres complètement ouvertes, elles n'ont même pas de porte, mais rien que le fait d'être au sec, ça leur suffit. Et elles passent
Oui,
très
c'est
bien.
fabriqué, hein. Quand on parle de serre, on n'a pas des grandes serres en métallique, c'est des charpentes en bois autoconstruites avec un peu de. Avec de la poche transparente comme partout.
Oui, bon, ça, oui, mais ça pourrait aussi être des grandes serres. Là, c'est que juste il n'y avait pas la surface pour le faire, mais ça reviendrait au même. Et d'autres dans les fleurs, il y en a quand même toute une série qui aime bien avoir bien chaud, comme certaines fleurs qui se sèchent, comme les statis, le gypsophile, il aime bien aussi. Le gypsophile, c'est surtout qu'il craint les limaces, alors il peut se faire vraiment démonter complètement jusqu'à disparaître. Et donc voilà, les serres, elles me servent à ça et à anticiper des cultures pour le printemps pour pouvoir commencer un tout petit peu plus tôt. Où là, je vais planter donc les mêmes annuelles, ça marche pas avec toutes, mais que je plante au printemps, je vais en planter à partir de septembre, octobre et jusqu'à novembre et elles fleuriront au printemps d'après. Ça permettra d'arriver avec un peu plus de fleurs sur le printemps, qui est la période un peu charnière.
Et alors, on l'a dit, pour être une floriste, floricultrice, un peu, enfin, tu es très autonome, hein, sur tes engrais, tu n'en utilises pas, mais il faut une surface à peu près de combien?
Bah, moi, je cultive là, je suis sur, on va dire, 3000 mètres carrés à peu près, si on compte les zones de vivaces, etc. Et je suis déjà bien occupée. Je pense pas que j'aurai besoin de plus parce que avec le temps, je vais optimiser encore petit à petit. Mais par contre, la manière dont je le fais, tout est valorisé, chaque petit recoin est optimisé, donc c'est quand même beaucoup d'heures de travail. C'est pas parce que c'est petit qu'il y a moins de travail, quoi. Voilà. Mais on pourrait aussi faire plus mécanisé, donc il faudrait plus de place, des espaces de retournement, et peut-être qu'il faudrait x4. Ouais, ça dépend.
Et tu fais des associations de plantes, tiens.
J'en fais, j'observe, mais j'ai pas vraiment de conclusion là-dessus. J'ai
D'accord.
l'impression que c'est oui d'une plante à l'autre, mais aussi d'une allée à l'autre, des conditions météo, de plein de choses, et donc j'ai pas vraiment de règles que je me fixe, mais j'aime bien l'observer.
Et les purins de plantes, est-ce que tu en fais?
Ça peut m'arriver, ouais, dans des situations surtout météo un peu extrêmes de forte sécheresse ou d'à-coups, de grêle, des choses comme ça, pour soutenir la plante. Ouais.
Est-ce que tu leur fais de l'ortie?
Ouais, ça peut être de l'ortie. Là, c'est plutôt pour les stimuler, pour leur immunité, entre guillemets. Ça peut aider aussi. Ouais.
La prêle pour tout ce qui est fongique.
Voilà, mais là, sur les fleurs, j'ai pas trop ce problème-là.
D'accord.
Ouais, parce que la fleur, elle aime souvent. En fait, ce qui va pousser une plante à fleurir, c'est plutôt des situations un peu plus extrêmes. Donc, ça peut être des stress de sécheresse ou de chaleur. Ça va plutôt apporter des fleurs en plus. Et donc moi j'ai tendance à plutôt les sous-arroser un petit peu, on va dire, pour les amener à floraison, parce que si on arrose trop, ça fait beaucoup de feuilles, des tiges souples qui vont tomber, verser, qui seront ensuite tordues et que j'aurai du mal à utiliser dans les compositions. Donc finalement les problèmes fongiques j'en ai assez peu, puisqu'ils sont souvent liés à un surplus d'humidité.
On rappelle pour ceux qui sont près de chez toi dans les Hautes-Pyrénées, ils te trouvent sur le marché de Bagnères, de Bigorre le samedi et de Tarbes le jeudi matin. Mais ceux qui veulent voir quand même ce que tu fais, il y a un très joli site qui s'appelle Les Fleurs d'Orphée, et Orphée on l'écrit O-R-F-E-E, enfin E accent aigu, E, comme une fée avec de l'or devant. Merci beaucoup Orphée. Un petit mot de la fin.
Et bah avec plaisir, et puis je trouve que faut pas se priver de poésie, puisque c'est à portée de main.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.